Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et la ligne droite, à présent, c'est avec David Engels. Bonjour David.
Bonjour et très bon lundi, cher Richard.
Alors, on va parler de l'Allemagne, on va parler de l'AfD, car selon les derniers sondages que vous m'avez communiqués, merci, le principal parti d'opposition en Allemagne serait proche des 30% d'intention de vote, et dans certains Länder, il a même dépassé les 42%, et donc risque d'obtenir une majorité absolue. Et en même temps, il y a quelques jours, Jordan Bardella louait le chancelier Merz et critiquait âprement l'AfD en excluant toute collaboration dans un avenir proche. Alors, comment comprendre cette situation vue d'Allemagne ?
Alors, pendant très longtemps, l'Allemagne a été présentée comme le grand modèle européen avec une économie exportatrice triomphante, une stabilité politique remarquable, des finances publiques relativement saines, cohésion sociale enviée, une influence dominante au sein de l'Union européenne et des trains qui arrivaient à l'heure. Pourtant, derrière cette image flatteuse, se sont développées des contradictions profondes que les élites politiques internationales et d'ailleurs aussi françaises ont largement refusé de voir ou de reconnaître. Aujourd'hui, ces différentes contradictions éclatent simultanément, car l'économie allemande, avec sa croissance quasi nulle, traverse sa plus grave crise structurelle depuis la réunification. Ainsi, la désindustrialisation progresse, accélérée par les coûts énergétiques liés à la sortie brutale du nucléaire, par la rupture des relations privilégiées avec la Russie et par la concurrence croissante des États-Unis et surtout de la Chine. Alors, des secteurs autrefois emblématiques comme l'automobile, la chimie ou la métallurgie perdent progressivement tout avantage compétitif. Les investissements stagnent, tandis que les délocalisations se multiplient sous l'effet de la bureaucratie allemande, du coût de l'énergie qui est faramineuse et des contraintes réglementaires croissantes. Parallèlement à tout cela, la question migratoire, exacerbée par une démographie en chute libre, continue de transformer profondément le pays. L'ouverture des frontières, décidée en 2015 par Angela Merkel et poursuivie par tous les gouvernements successifs, constitue sans doute l'événement politique majeur de l'Allemagne contemporaine, à part le Covid évidemment. Plus de 10 ans après cette décision, les conséquences demeurent visibles dans la pression exercée par les 4 millions de nouveaux arrivants sur les infrastructures, les systèmes sociaux, le logement, l'éducation et évidemment la sécurité. À cela s'ajoute encore une polarisation culturelle croissante entre une partie des élites urbaines adhérant à une vision post-nationale de la société allemande et une partie de plus en plus importante de la population attachée à une conception plus traditionnelle de l'identité du pays. Cette fracture est aggravée aussi par une autre évolution, la restriction progressive de l'espace du débat public. Certes, l'Allemagne reste, du moins en théorie, une démocratie libérale dotée d'institutions démocratiques solides. Pourtant, de très nombreux citoyens, je crois qu'il y en a plus de 60% d'ailleurs, ont le sentiment que certaines questions, l'immigration, l'identité, l'islam, le climat, l'Europe, ne peuvent pas être discutées librement sans risquer une stigmatisation immédiate avec toutes les conséquences. La multiplication des procédures judiciaires, des mécanismes de surveillance numérique et des campagnes médiatiques contre des opinions de droite contribuent à renforcer cette perception. C'est donc dans ce contexte qu'il faut comprendre l'ascension actuelle de l'Alternative für Deutschland, la AfD. Fondée en 2013 comme un parti encore essentiellement eurocritique, opposé au plan de sauvetage de la monnaie unique dans la crise grecque, l'AfD s'est progressivement transformée en principal véhicule de protestation contre l'évolution générale de l'Allemagne. Son succès résulte avant tout de l'incapacité des partis traditionnels à répondre aux inquiétudes d'une partie croissante de la population. Les sondages montrent depuis plusieurs années une progression presque continue du parti. Avec maintenant 29%, selon certains sondages, l'AfD est devenue la première force politique du pays, loin devant la CDU du chancelier Merz avec seulement 21%. Et dans certains Länder, comme la Saxe, elle dépasse déjà les 42% et n'est plus très éloignée de la majorité absolue.
Alors, et en même temps, cette progression n'est pas sans contradiction et contradiction interne et importante. Que veut au fond l'AfD ?
Justement, si on savait, il faut savoir que l'AfD n'est pas un parti idéologiquement homogène, mis à part quelques éléments de fond plutôt contestataires, comme l'opposition à l'immigration de masse, aux excès de la culture LGBTQ, à l'instrumentalisation de la culpabilité historique de l'Allemagne par la gauche, ou à l'ingérence de l'Union européenne dans les affaires nationales, etc. Ainsi, sur le plan économique, Une tension permanente oppose les héritiers du libéralisme ordolibéral allemand à une aile davantage sociale et protectionniste. En effet, certains cadres continuent de défendre une réduction radicale du rôle de l'État, tandis qu'une partie importante de l'électorat attend au contraire une protection accrue contre les effets de la mondialisation et de la désindustrialisation volontaire. Des contradictions comparables apparaissent d'ailleurs sur les questions culturelles, religieuses et européennes, entre défense de l'héritage chrétien, approche plus laïque ou identitaire, voire néo-païenne, entre souverainisme national et recherche de nouvelles formes de coopération européenne, l'AFD demeure traversée par plusieurs courants contradictoires et contient dès lors le meilleur et le pire, des ambiguïtés expliquant d'ailleurs à la fois sa popularité et son relatif isolement. Car cette ambivalence explique la persistance de la fameuse Brandmauer, c'est-à-dire ce cordon sanitaire par lequel l'ensemble des autres partis dits démocratiques refusent toute coopération avec elle. À l'origine, cette stratégie visait à empêcher l'arrivée au pouvoir d'un parti considéré comme extrémiste à cause de sa critique de l'immigration de masse, etc. Mais avec le temps, la Brandmauer a produit l'effet inverse. Plus l'AFD progresse dans les urnes, plus l'exclusion systématique de millions d'électeurs apparaît difficile à justifier démocratiquement, car une partie croissante de l'opinion publique commence à percevoir ce cordon sanitaire non comme une protection de la démocratie, mais plutôt comme un mécanisme destiné à préserver un certain système politique dont la légitimité s'érode progressivement. À cette progression s'ajoute l'ampleur des moyens mobilisés pour empêcher l'AFD d'accéder à une quelconque forme de pouvoir. Alors certes, toute démocratie dispose du droit de se défendre contre des mouvements réellement hostiles à l'ordre constitutionnel. Pourtant, dans le cas de l'AFD, on assiste depuis plusieurs années à une extension continue des mécanismes de surveillance, de stigmatisation et de marginalisation. Le recours au Verfassungsschutz, donc c'est-à-dire l'Office pour la protection de la Constitution, dont le service secret intérieur, les débats réguliers sur une interdiction du parti, des obstacles à son accès à certaines responsabilités parlementaires qui lui reviennent de droit, ou encore la stigmatisation de ses sympathisants comme nazis, témoignent d'une situation intenable. Dès lors, de plus en plus d'électeurs concluent que le véritable conflit actuel ne porte plus seulement sur le contenu des propositions du parti, mais sur la définition même de ce que démocratie veut encore dire. Cette tension est renforcée par le rôle des médias allemands, caractérisé par une approche des plus asymétriques. Alors que les excès ou maladresses de l'AFD, et il y en a, font immédiatement l'objet d'une couverture nationale de grande ampleur, les problèmes structurels ayant contribué à l'essor du parti ou les dérives de l'extrême-gauche reçoivent une attention beaucoup plus limitée. Il en résulte un phénomène bien connu: chaque campagne médiatique contre la droite destinée à affaiblir l'AFD semble finalement renforcer sa crédibilité auprès d'une partie croissante de l'électorat.
Alors, cette situation contrastée sur le plan intérieur explique-t-elle aussi la situation et les difficultés de l'AFD sur la scène internationale ?
Sans doute. Les rapports avec le PiS polonais, le parti conservateur en Pologne, en constituent un bon exemple. Malgré des convergences sur l'immigration, conservatisme culturel ou la critique de l'eurofédéralisme bruxellois, la mémoire historique continue de peser lourdement sur les relations germano-polonaises. De leur côté, certaines déclarations plus que maladroites de responsables à AFD concernant la Seconde Guerre mondiale et l'attitude généralement pro-russe de l'AFD ont compliqué davantage un rapprochement qui paraîtrait pourtant logique sur bon nombre de dossiers. Dès lors, le PiS a préféré garder ses distances, ce qui a bien évidemment encore plus réduit les quelques sympathies pro-polonaises que pouvaient avoir certains patriotes allemands. Nous pouvons dire la même chose concernant la France. Dans sa stratégie de dédiabolisation et de course à la présidence, le Rassemblement national doit évidemment prendre en compte l'image très négative de l'AFD, que les médias français ont repris de leurs homologues allemands alignés au système politiquement correct, expliquant à la fois l'exclusion de l'AFD du groupe européen Identité et démocratie en 2024, ainsi que le débat actuel. Là aussi, il est sûr qu'une telle attitude n'est pas faite pour inciter l'AFD à plus de sympathie pour le destin des populistes français. Ainsi, la diabolisation mutuelle des divers nationalistes européens n'est guère faite pour les mener de la myopie, du patriotisme national un peu étriqué, vers la nécessité d'une vraie lutte commune pour la survie de notre civilisation. Il pourrait donc, hélas, devenir un genre de prophétie autoréalisante.
Alors, quel sera l'avenir de l'AFD ?
À court terme, la probabilité d'une participation gouvernementale au niveau fédéral allemand demeure très faible. La Brandmauer continuera encore un temps de fonctionner, même si son coût politique augmente sans cesse. En revanche, l'hypothèse d'une participation au pouvoir dans un Land oriental apparaît désormais comme un scénario non pas impossible. Et une telle expérience constituerait un test décisif, car jusqu'à présent, l'AFD prospère largement dans l'opposition. Gouverner, en revanche, représente un exercice très différent. Les contraintes budgétaires, juridiques et européennes, les décisions des marchés financiers, le sabotage inévitable des autres institutions allemandes, des communes jusqu'au niveau fédéral, et l'opposition des grandes administrations et des médias limiteront très fortement les marges de manœuvre de n'importe quel gouvernement. Dans l'hypothèse où l'AFD accéderait, grâce à une majorité absolue, au pouvoir dans un Land, le risque d'une rapide déception électorale ne saurait être exclu. L'autre scénario, beaucoup plus inquiétant, serait celui d'une radicalisation progressive de la stratégie d'exclusion. Les discussions récurrentes sur une interdiction pure et simple du parti, ou d'un genre d'usurpation exceptionnelle du pouvoir exécutif du Land par le niveau fédéral du Bund, témoigne déjà de cette tentation, tout comme d'ailleurs les mesures actuelles de l'Union européenne de couper les financements de l'AFD à Bruxelles. Interdire un mouvement soutenu par des millions d'électeurs reviendrait toutefois à ouvrir une crise de légitimité dont nul ne peut aujourd'hui mesurer les conséquences qui pourraient aller jusqu'à la sécession d'une partie du pays. Dès lors, comment les autres pays européens doivent-ils, ou les autres partis patriotiques européens doivent-ils considérer l'AFD ? Deux attitudes opposées semblent aujourd'hui coexister, en tout cas. Certains mouvements conservateurs, comme jadis Orban, considèrent qu'il est indispensable d'établir des relations solides avec la principale force anti-système allemande afin de construire une alternative continentale crédible au système établi et d'aider l'AFD à stabiliser son idéologie et de s'aligner sur l'intérêt de ses partenaires européens. D'autres, comme à ce qu'il semble le RN ou le PiS, préfèrent conserver leur distance pour des raisons de politique intérieure, mais renforcent ainsi à la fois la radicalisation de l'AFD, tout comme la continuation de l'emprise sur l'Allemagne et sur l'Europe d'un gouvernement allemand actuel qui est, lui, fondamentalement anticonservateur. Or, l'Europe pourra-t-elle durablement retrouver une orientation patriotique sans l'Allemagne ? J'en doute, mais sans une véritable alternative politique crédible aux manettes de la première puissance démographique, industrielle et économique du continent, très difficile d'imaginer un vrai changement politique à la fois en Europe et évidemment aussi en France.
Eh bien, merci beaucoup David Engels pour cette analyse de la place de l'AFD et surtout de son avenir. Et à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, eh bien, je prends la main, Richard, vu mais que vous me la laissez. Et puis, nous recevons évidemment Régis Le Sommier, comme chaque semaine. Bonjour Régis.
Bonjour Alexandre.
Alors, aujourd'hui, vous nous parlez eh bien, du retour peut-être de la guerre.
Alors, oui, du spectre du retour de la guerre au Moyen-Orient, en tout cas entre Israël et l'Iran, c'est bien parti. Alors, plusieurs événements significatifs se sont déroulés la nuit dernière, je vais dire entre les trois protagonistes de ce conflit. D'abord Israël et l'Iran, et puis aussi les États-Unis. Alors, tout commence en fait, je vais dire, par une entorse dans la relation entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Alors, c'est pas la première entorse. Je me souviens qu'il y a une semaine, Donald Trump avait dit au téléphone à Benjamin Netanyahou, il a encore confirmé hier que ses propos étaient vrais, « Tu es complètement fou, tu serais en prison si je n'étais pas là ». Tout le monde te déteste maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de ça. Donc Trump confirme hier au Financial Times qu'il a bien tenu ses propos. Il, même journal, il lui dit aussi que Netanyahou n'aura pas d'autre choix que d'accepter l'accord que les États-Unis négocieront avec l'Iran, parce que c'est moi qui décide, c'est moi qui décide de tout, ce n'est pas lui qui décide. Donc voilà, ça c'est aussi propos de Donald Trump. Alors dans la réalité, on s'en est rendu compte cette nuit, les choses semblent un peu plus compliquées. Et c'est au Liban qu'elles prennent toute leur ampleur et qu'elles démontrent tant du point de vue israélien que de celui de l'Iran que ce pays est indivisible de l'accord général qui sera conclu entre l'Iran et les États-Unis pour arrêter la guerre. En effet, Israël entend poursuivre ses opérations contre le Hezbollah au pays du Cèdre, et l'Iran refuse de signer un accord quelconque sans qu'il n'inclue le Liban. Alors, qu'est-ce qui vient de changer hier soir ? D'abord, Israël a commencé par frapper le sud de Beyrouth. Première désobéissance à Trump, qui depuis le cessez-le-feu du 17 avril, lui a interdit de le faire et demandé expressément d'épargner la capitale libanaise. Frappe significative, donc, au cœur du fief chiite de Dahriyeh, toujours le même endroit. Ensuite, fait majeur, c'est la première fois que l'Iran frappe Israël en réponse à une frappe israélienne sur un troisième pays. Pas l'Iran lui-même, mais le Liban. Donc la dissuasion iranienne, autrefois, elle signifiait frapper l'Iran et l'Iran riposte. Hier soir, cela s'est élargi à frapper le Liban et l'Iran riposte. C'est une équation fondamentalement différente qui étend le rayon d'action iranien comme un frein militaire à l'action israélienne à travers toute la région et pas simplement sur le territoire iranien. On sait que pendant des décennies, Israël a opéré avec une quasi-impunité parce qu'aucune puissance régionale n'avait à la fois la capacité et la volonté d'imposer de réels coûts à ses actions militaires à l'étranger. Alors avec ces tirs de missiles de l'Iran, Trump déclare toujours au Financial Times, ça n'aura aucun impact sur l'accord. On va voir. Hein. Sur ce qui se passerait si les négociations échouent, je termine sur Trump. Il avoue envisager un raid commando sur l'Iran ou maintenir le blocus qu'il a qualifié de probablement plus puissant que toute attaque jamais menée contre ce pays. Là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Nouveau coup de fil cette nuit entre Trump et Netanyahou. Alors Trump dit à Netanyahou qu'il est mécontent des frappes sur Beyrouth et demande à ce dernier de ne pas riposter aux frappes iraniennes. Nouvelle désobéissance quelques heures plus tard. Israël attaque Tabriz, la ville de Tabriz au nord-nord-ouest de l'Iran, Ispahan, Téhéran, notamment l'aéroport. En tout, ce sont plus de 11 villes qui sont ciblées par les frappes israéliennes. Et également l'île de Karg, vous savez, le fameux terminal pétrolier, avec plusieurs types de missiles. Netanyahou, en fait, a répondu à Trump quand il lui a dit « n'attaque pas », que de toute façon, il attaquerait. Donc il inflige un nouveau camouflet au président américain, qui affirmait aux journalistes, on l'a vu, que c'était lui qui décidait. On peut vraiment en douter. On peut s'interroger sur le fait que les deux hommes nous livrent peut-être aussi un jeu de dupes, car lors des frappes israéliennes de cette nuit, un certain nombre d'avions de ravitaillement américains ont été annoncés comme ayant décollé. On sait qu'en cas de frappe, et même si les Américains annoncent ne pas y avoir participé, les Israéliens ont souvent besoin de la logistique américaine, et que donc cette fois encore, celle-ci ne leur a pas fait défaut, malgré les déclarations de Trump. Donc, on peut se dire, est-ce que c'est pas finalement Trump qui utilise les Israéliens pour faire pression, cette fois sur les Iraniens ? Voilà. À noter que l'Iran aurait tiré, alors l'Iran ne confirme pas, au moins 2 missiles balistiques sur la base Prince Sultan en Arabie Saoudite. C'est important parce que la menace que fait planer l'Iran, c'est évidemment de riposter sur les bases américaines de la région, voire les alliés des Américains, les pays du Golfe, etc. Alors, il convient dans ce contexte aussi, et je pense que c'est important d'en parler, de prendre en compte les dernières révélations du New York Times et de plusieurs autres médias américains d'importance qui disent que les responsables américains s'inquiètent d'efforts israéliens visant à obtenir des renseignements sur les discussions américaines concernant l'Iran, notamment en cherchant à connaître les positions de négociation des hauts responsables américains. Alors, ce sont des nouvelles révélations. On parle d'espionnage, c'est pas tout à fait ça. Israël n'espionne pas massivement les États-Unis dans tous les domaines. Toutes les allégations rapportées ont été établies de façon publique et il n'existe pas une rupture fondamentale dans l'alliance américano-israélienne. Mais certains rapports évoquent, et c'est là ce qui est inquiétant, la découverte de logiciels de surveillance sur des téléphones utilisé par le personnel américain en Israël, et on estime que la cible des Israéliens dans cette surveillance serait Steve Witkoff lui-même et deux autres officiels du Pentagone en charge des négociations sur l'Iran. Alors la Maison Blanche nie, mais le Pentagone, ce qui est très intéressant, c'est qu'en ce moment on assiste à un jeu d'ailleurs entre la Maison Blanche qui a une position et le Pentagone qui a une autre position, notamment sur l'Iran et sur la guerre, et le Pentagone lui estime que le degré d'espionnage opéré par Israël est passé à un stade critique, c'est-à-dire qu'il est plus large que celui opéré sur les États-Unis par n'importe quel, vous savez, il y a des mesures de ça, par n'importe quel autre allié de l'Amérique, et même supérieur à celui opéré par des adversaires de l'Amérique. Cela démontre les craintes de Netanyahou de voir un accord entre Iran et États-Unis se nouer dans son dos. Alors, cette affaire d'espionnage ajoutée aux diverses pressions, aux agissements en dépit des remontrances de Trump, montre que Bibi Netanyahou est prêt à tout pour que la guerre ne s'arrête pas. Si Trump veut vraiment y mettre un terme, il devra peut-être prendre des mesures significatives, comme par exemple cesser de fournir à Israël certaines armes, ce que Joe Biden avait fait au moment de Gaza. Sans les armes américaines, la marge de manœuvre d'Israël sera nettement plus réduite. Alors, je terminerai cette chronique avec une note d'espoir quand même. L'accord en vue avec l'Iran n'a jamais été aussi proche, c'est ce que Donald Trump estime, et ce que disent aussi les négociateurs pakistanais, les Iraniens, malgré les menaces. Il va falloir attendre les prochaines heures pour savoir si l'escalade va se poursuivre. Si les belligérants s'en tiennent là, ça veut dire que on sera probablement on va peut-être avoir un accord, mais là pour le moment les Iraniens ont recommencé, donc je dirais wait and see, voilà.
Merci Régis. Alors première chose un petit peu, c'est que d'une certaine façon, là on est dans une période d'escalade, on est dans une période de négociation depuis un certain temps tout de même. Je voudrais, c'est quelque chose que je vous disais juste un petit peu hors antenne, vous rappeler donc quelques mots de Donald Trump il y a quelques jours, quand une journaliste lui demande « Mais qu'est-ce que vous entendez par cessez-le-feu ?» Et lui répond « Eh bien, dans cette région, un cessez-le-feu, c'est quand on tire de manière plus modérée. »
Oui, bah, c'est tout à fait ce qui... Je pense que Donald Trump, en disant ça, a évidemment le Liban en tête, où on essaye justement de réduire la portée des frappes, et notamment ce que Donald Trump avait réussi à imposer à Israël, c'est-à-dire d'éviter d'attaquer Beyrouth, que la capitale reste épargnée pendant les négociations, parce que savoir qu'en parallèle des négociations avec l'Iran, il y a des négociations qui ont lieu à Washington entre les Libanais et les Israéliens. Donc il y a plusieurs types de négociations, et ce sont les États-Unis qui dirigent ces négociations. Donc Trump a un intérêt, effectivement, à imposer un cessez-le-feu, mais on sait que on a pu aussi dire aussi que quand les Israéliens signent un cessez-le-feu, c'est le concept du cessez-le-feu unilatéral, c'est-à-dire qu'il concerne une partie
de tirer
et pas l'autre.
Panneau, oui,
voilà.
C'est ça, ouais.
Bon, on sait que le Hezbollah, lui, par exemple, sur les derniers accords, a refusé l'accord de paix. Bon, il n'est pas non plus dans une position où il souhaite l'arrêt de la guerre. Et ce qui est très intéressant, c'est justement ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire cette volonté de la part des Iraniens d'inclure bec et ongle le Liban dans un accord final, ce qui n'est pas du tout le cas des Israéliens. Je pense que les Israéliens seraient partant pour un accord entre l'Iran et les États-Unis s'il n'y avait pas justement cette donne libanaise
C'est ça qui est assez frappant, c'est-à-dire qu'on voit, c'est là qu'on voit que toute l'opération finalement est un échec sur le plan général, c'est que encore aujourd'hui, les Iraniens sont tout à fait en position de refuser un cessez-le-feu, donc de menacer de reprendre le conflit à haute intensité, tout en sachant que c'est eux qui subiraient le plus, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une vraie confiance dans leur capacité de résilience. Et le deuxième élément, c'est que concrètement, même dans le cadre du cessez-le-feu, de l'accord a beaucoup évolué ces dernières semaines, mais concrètement, on reviendrait quand même à un accord qui serait plus favorable à l'Iran qu'avant le début de la guerre, dans tous les cas.
Mais tout à fait, et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que là, non seulement on sait que économiquement, l'Iran a un levier formidable avec, avec le détroit d'Ormuz. Il l'a démontré, il le démontre encore tous les jours. Hein. Dès que vous, moi, allons à la pompe à essence, on sent la douloureuse. Hein, on regarde les chiffres monter comme ça. Et on se dit, ben oui, ben, c'est le détroit d'Ormuz, c'est l'Iran. Voilà. Et ce levier que l'Iran a sur l'économie mondiale, et encore là, je parle juste de la question des hydrocarbures, parce que se pose actuellement la question des engrais, se pose actuellement la question des plastiques, se pose actuellement la question du lithium, de plein de...
Et encore, j'ai envie de dire qu'on est en été et que forcément la question du chauffage se pose beaucoup moins pour l'instant.
Oui, donc peut-être que le gaz aussi, est, voilà, même si les augmentations sont dans des marges de 20-30%, ouais. Enfin bref, c'est considérable. Non, je pense qu'il faut, il faut regarder les choses et se dire, là-dessus, sur le levier économique, l'Iran a un poids considérable, mais maintenant, l'Iran commence, on va dire, à imposer des choses. Cette décision de frapper Israël parce qu'Israël frappe le Liban, c'est totalement inédit. Mmh. Et ça montre que l'Iran a gagné en confiance, en dépit, effectivement, vous avez raison de parler des conséquences, parce qu'elles sont forcément importantes pour l'Iran. Mais ce qu'on a compris avec cette guerre, c'est que même si les conséquences sont importantes, l'Iran est un pays capable de résister.
Oui, ce que j'allais dire, c'est que l'Iran est capable, au moins dans son système politique actuel, de survivre.
Oui.
Et ils sont confiants là-dessus. Mais c'est quelque chose qui m'étonne tout autant.
Et survivre, c'est gagner pour eux.
Oui. Oui, bien sûr. Mais ce qui m'étonne tout autant, c'est les capacités balistiques iraniennes actuelles. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ce qu'on observe, c'est que alors que les États-Unis, justement, s'étaient fait une gloire, quelque part, d'avoir anéanti une bonne partie des capacités balistiques iraniennes, d'avoir détruit des lanceurs de missiles, d'avoir justement attaqué les infrastructures militaires de l'Iran, on arrive dans une situation dans laquelle, en réalité... l'Iran est tout à fait capable encore aujourd'hui de frapper l'Arabie Saoudite, de frapper Israël, de s'engager réellement dans une réplique dans ce conflit.
Oui, totalement. Mais ça, le renseignement américain, fort justement, a expliqué que l'Iran avait recouvré pour partie sa capacité de frappe, déblayé les silos par lesquels partent les missiles, réparé un certain nombre de conséquences des frappes américaines et israéliennes sur son potentiel militaire, et qu'environ 70% des capacités de frappe étaient rétablies aujourd'hui. Alors, on va voir si l'Iran, dans la durée, prouve que le renseignement américain avait raison, mais il semblerait que au lieu de ce qui s'est passé la nuit dernière, l'Iran a montré qu'il était capable d'envoyer du balistique à nouveau, et ce qu'il est en train de faire en ce moment, hein, parce que je rappelle que les sirènes ont retenti partout dans Israël, qu'un certain nombre de frappes... Alors apparemment, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'Israël aussi a recouvré une partie de son potentiel d'interception, et que les Américains ont probablement déplacé des batteries de missiles TAD rapatriées de Corée du Sud ou d'Asie, où elles protégeaient les pays, et que actuellement Israël est mieux défendu, on va dire, qu'il ne l'était.
Le double de fer est redevenu opérationnel. Quoi.
Exactement. Donc il y a eu un travail des deux côtés. Maintenant, est-ce que l'Iran va être à nouveau capable de soutenir une campagne de frappe de missiles constante, régulière, tous les jours, si la guerre, on va dire, dans sa phase la plus intense, recommençait? Ou est-ce que c'est simplement un message pour faire pression dans le cadre des négociations, et que les frappes israéliennes de la nuit dernière étaient aussi un message pour faire pression? On va voir si on est reparti vraiment dans une guerre à fond. C'est pas encore certain. C'est ça le voilà. On va voir dans les prochaines heures.
C'est aussi quelque chose dont je vous parlais un petit peu en tête, mais Itamar Ben-Gvir, donc du coup ministre de Netanyahou, lui a déclaré, je crois que c'était hier soir, cette nuit, Téhéran doit brûler, oui c'est ça.
Certains responsables iraniens disent qu'ils vont anéantir l'ensemble des économies des pays du Golfe, et qu'ils vont riposter sur les bases américaines et on se concentrait.
Verbalement, c'est violent quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dynamique d'apaisement verbal, en tout cas.
Non, mais je ne pense pas qu'il faille prendre pour parole d'évangile, le cas échéant, les paroles d'Itamar Ben-Gvir. Parce que là, on est dans... vous savez, l'autre jour, vous avez deux ministres qui posent problème comme ça dans le gouvernement israélien. Vous avez Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Smotrich expliquait... son fils a été blessé en combattant dans le Sahel. Il expliquait que son fils lui a demandé de ne pas détruire tout le Liban. Et il a dit à son fils, t'inquiète pas, il t'en restera à détruire. Vous voyez, bon, avec ce genre de propos incantatoires, on est plus face à des fous furieux extrémistes. Disons qu'ils ont de l'influence sur Benjamin Netanyahou, mais ce n'est pas eux qui décident de la politique d'Israël. Et que même si Netanyahou leur fait la part belle, il y a aussi beaucoup de gens dans l'état-major qui ne sont pas, et notamment le chef d'état-major des armées, qui est parfaitement conscient qu'Israël atteint beaucoup de limites au niveau de ses capacités opérationnelles et que son armée est extrêmement étirée aujourd'hui et qu'on ne peut pas tout faire et que la réalisation du grand Israël dont rêvent ces deux personnages est quand même difficile à mettre en place. Donc c'est ça aussi. De même, chez les gardiens de la révolution iranienne, il y a toujours la fiction de la destruction d'Israël qui plane et que voilà, l'Iran, en montrant ses muscles, va faire disparaître cet État qu'on appelle en Iran le petit Satan, par opposition au grand Satan qui est l'Amérique, quoi. Voilà. Donc cette rhétorique, elle est ancienne. Là, effectivement, elle trouve une nouvelle sphère d'expression, quoi. Mais je pense pas que c'est vraiment vers ces personnages-là. Non, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir d'abord, en dépit de ces excès, ce que dit Trump, parce que je pense que Trump est authentiquement attaché à la signature d'un accord. Il voudrait que ça se passe le plus rapidement possible. Il a plusieurs échéances. Bon, effectivement, on souligne souvent les midterms, mais aussi la Coupe du Monde qui commence aux États-Unis, avec des enjeux sécuritaires, avec des enjeux aussi pour Trump, tout simplement. Parce que Trump aimerait bien passer à autre chose. Mmh. C'est ça la vraie question. Netanyahou veut continuer sa guerre. Il estime que le Hezbollah n'a pas été liquidé, et à juste titre, puisque le Hezbollah conserve énormément de capacités opérationnelles. D'ailleurs, le Hezbollah est intervenu hier soir aussi en lançant des missiles sur Israël. Donc, et fait nouveau aussi que l'Iran avait menacé de mettre en action ses proxys. Les outils ont tiré un missile balistique en direction d'Israël qui a été intercepté. Mais voilà, ça veut dire que les Houthis sont prêts, et les Houthis ont annoncé la fermeture du détroit de Bab al-Mandab et de la mer Rouge à tout navire lié à Israël. Donc on revient dans la configuration d'avant, avec cette capacité de nuisance des proxys de l'Iran qui se met en place, mais je vais dire modérément, parce que les Houthis n'ont pas dit on ferme complètement le détroit. Ils ont envoyé un missile. Voilà, on est plus dans du dialogue, ou en fait dans l'établissement d'un rapport de force, à mon sens, que dans le redémarrage d'une guerre totale.
Un cessez-le-feu où on tire de manière plus modérée.
C'est ça. Dans ce cas, Donald Trump a raison.
Je voulais juste poser une question, et pardonnez-moi d'intervenir dans ce débat de haute volée.
Vous êtes excusé, Richard.
Merci. Si l'Iran a réagi aussi en bombardant Israël parce qu'Israël avait bombardé le Liban, c'est sans doute parce que l'Iran considère qu'elle a une nouvelle posture internationale, beaucoup plus légitime qu'avant, et en fait que la guerre menée par Israël délégitime Israël aux yeux du monde entier et relégitime bizarrement l'Iran.
Non, c'est une très bonne question. On ne mesure pas encore totalement, à mon sens, les conséquences de cette prise de décision de la part des Iraniens de frapper directement Israël sans avoir été frappé par Israël. En fait, c'est pas eux qui sont frappés, c'est le Liban, enfin en tout cas le Hezbollah. Et en fait, cette initiative change les choses. Elle introduit une dimension nouvelle dans les conflits au Moyen-Orient. Après, est-ce que l'Iran a la capacité, a les moyens de sa politique? Je n'en sais rien, c'est trop tôt peut-être pour le dire. Mais en tout cas, ce qui est significatif, c'est que tant du point de vue économique, bon, on l'a expliqué avec le détroit d'Hormuz, que de sa situation politique, depuis le 28 février, l'Iran est un pays qui est désenclavé, qui avant était exclu de la communauté internationale, isolé, on va dire, avec de temps en temps qui était plus inquiétant du point de vue de son nucléaire. Il y avait toujours ces discussions. L'Iran n'apparaissait en dehors de ça nulle part sur la carte du monde en réalité. Et depuis, il est devenu l'acteur majeur de la région, celui qui décide, celui qui prélève des taxes sur Hormuz. Et maintenant, celui qui se dit, tiens, je vais conclure, je vais aussi m'imposer militairement.
Mais voilà. Même dans l'image diplomatique de l'Iran, c'est-à-dire qu'auparavant, il était effectivement complètement relégué dans le côté les partisans du monde multipolaire, donc avec la Russie, avec la Chine, enfin, il était relégué finalement dans le camp d'en face, quelque part. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la délégitimation d'Israël, de l'Israël de Netanyahou, induit aussi qu'on doit traiter en Occident différemment l'Iran, et que finalement, en réalité, il y a peut-être un équilibre qui se réalise. Et alors, on n'en est pas non plus à une situation dans laquelle qui que ce soit se sent de négocier directement avec Mojtaba Khamenei, mais peut-être qu'à terme, c'est quelque chose qui
viendra. Qui
ils sont toujours considérés comme pestiférés, quand même, ne serait-ce que par leur régime islamique.
Oui, en fait, mais en réalité, vous regardez la situation de la France par rapport à l'Iran, elle n'est pas si antagoniste. C'est-à-dire que Jean-Noël Barrot a des relations très cordiales avec Abbas Araghchi, son homologue iranien, entre ministres des Affaires étrangères. Notamment, ça s'est vu avec la libération des otages, la libération de l'étudiante iranienne qui était détenue en France pour espionnage, la libération de Cécile Collard et de Jacques Paris qui était détenue en Iran. Tout ça, ça s'est fait à travers un travail diplomatique qui existe depuis un petit moment et qui fait que, par exemple, quand la France a voté avec la Chine et la Russie sur la question du détroit d'Hormuz, se désolidarisant de l'action des Américains, là aussi on a quelque chose de nouveau et on a une écriture différente de ce qu'on avait, par exemple, quand on était au moment des négociations. Vous savez, il y avait eu un an et demi de négociations pour aboutir au JCPOA, à l'accord de Vienne de 2015, mais à cette époque-là, c'était l'Occident, même le monde, qui était contre l'Iran. L'Iran était totalement isolé. Là, aujourd'hui, vous avez raison de souligner que, ils sont avec la Chine et la Russie, mais ils sont moins isolés qu'avant et ils ont la possibilité de jouer leur propre partition.
Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'ils s'imposent eux-mêmes, non pas en tant que membres pestiférés d'un camp déjà opposé, mais également comme un acteur, un pivot, presque, d'une réorganisation, en tout cas de l'Asie.
Je pense que c'est un acteur régional d'importance, qui a d'ailleurs lui-même, par la situation présente qu'il a contribué à créer, réveillé aussi d'autres puissances importantes diplomatiquement, je pense en particulier au Pakistan. L'Égypte, la Turquie jouent aussi énormément, ont investi aussi énormément dans ces négociations, qui les fait apparaître sur la carte du monde et qui montrent un autre visage du Moyen-Orient, avec les pays traditionnellement puissants, on va dire, financièrement et économiquement, qu'étaient l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui, eux, en apparaissent fragilisés.
C'est ce que j'allais dire, la question que j'allais vous poser, Régis, mais justement, sur cette question de la légitimité diplomatique, évidemment, le Pakistan est remis au centre, parce que c'est là-bas que
les négociations... Mais c'est l'Iran qui l'a choisi, personne d'autre.
C'est l'Iran qui l'a choisi.
Mais on va négocier là.
En revanche, justement, sur la Turquie d'Erdogan, ou alors sur l'Égypte, on a l'impression que effectivement, ou même l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, on a l'impression que plutôt ces pays sont assez en retrait. Alors peut-être que c'est qu'une impression, mais sont assez en retrait dans le sens où les négociations se mènent au Pakistan avec l'Iran, les États-Unis et Israël, et que finalement tous les autres acteurs qui étaient quand même les puissances montantes de la région sont un petit peu, au contraire, mises sur la touche.
Il y a du vrai dans ce que vous dites, mais dans le sens que c'est des pays qui se sont rendus compte de leur vulnérabilité à la faveur de ce conflit. Donc, il y a une posture, on va dire, en retrait. En revanche, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'ils soient moins en avant. Le Qatar agit, par exemple, de façon extrêmement intense sur la question des fonds iraniens gelés, qui est crucial dans dans l'histoire de la négociation. C'est-à-dire que les Iraniens exigent que leurs avoirs, de récupérer leurs avoirs, notamment les 12 milliards qui sont au Qatar. Il y a eu plusieurs déplacements de ministres et de personnalités au Qatar pour sur cette question précise, et ça fait partie, c'est un des axes majeurs de l'accord
et on
que l'Iran cherche
aussi,
à trouver avec les États-Unis.
On connaît aussi l'emprise du Qatar sur justement l'économie américaine.
Sur la diplomatie
voilà,
aussi.
Bien sûr. Ouais, mais le Qatar certainement en tant que pivot, mais pour le coup je reviens un petit peu sur la Turquie ou l'Arabie Saoudite, qui effectivement, alors que on voyait Mohamed Ben Salman ou alors Erdogan justement être en croissance totale. Je pense par exemple sur la question de la Syrie, Erdogan qui s'est imposé comme l'acteur principal en l'Arabie Saoudite, qui était quand même la puissance dominatrice de la région. Désormais, on sent qu'elles sont un petit peu suspendues aux décisions de Netanyahou, de Donald Trump et de Mojtaba Khamenei.
Moi, je pense que l'Arabie Saoudite, comme les Émirats, même s'ils ne sont pas du tout dans le même camp dans cette histoire, hein, l'Arabie Saoudite est plus dans un partenariat régional avec le Pakistan qui existe déjà et dans, on va dire, un accord de neutralité avec l'Iran. En dépit des frappes, les Émirats Arabes Unis, eux, sont fermement arrimés à Israël et aux États-Unis. Voilà. Donc la position n'est pas du tout la même. Le problème, c'est que les deux pays risquent de perdre si la situation n'est pas contrôlée et que la guerre continue à un train infernal. C'est des économies qui risquent d'être les complexes gaziers et pétroliers de la région. Les pipelines risquent d'être endommagés, voire détruits par cette guerre. Donc ils ont beaucoup à perdre. Maintenant, sur ce qui est d'Erdogan, non, je ne suis pas d'accord. Erdogan a une influence considérable dans la région. C'est lui notamment qui a empêché les Israéliens d'utiliser les Kurdes irakiens et les Kurdes iraniens, de les faire se soulever, faire qu'il y ait une intervention. Ça avait été préparé. Ouais. C'est le Mossad qui a entraîné ces deux groupes pour qu'ils se soulèvent de façon à créer, on va dire, des dissensions à l'intérieur de l'Iran, à créer une force qui occupe, on va dire, les gardiens de la révolution, pour créer de la confusion, du chaos, et de ce chaos, potentiellement la chute du régime. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pourquoi ? Parce que Erdogan est intervenu auprès de Trump, et Trump a dit aux Kurdes irakiens notamment, vous ne bougez pas. Voilà, donc là encore une fois, c'est encore un pays de la région qui vient, on va dire, empêcher une escalade. Et ce qui est intéressant avec l'Arabie Saoudite, et notamment le poids que MBS conserve auprès de Donald Trump, depuis les accords d'Abraham, mais pas que, c'est que l'Arabie Saoudite, plusieurs fois, quand les États-Unis sont tentés d'intervenir, et là probablement, on va voir si les États-Unis vont suivre Israël dans l'escalade, mais MBS régulièrement appelle Donald Trump pour dire n'intervenez pas. Il n'y a pas que cette puissance régionale qui le fait, parce que ils ne veulent pas les pays voisins de l'Iran ne veulent pas revenir à une configuration telle qu'ils l'ont vécu pendant les 40 jours de guerre intense avant le cessez-le-feu du 8 avril.
Il nous reste 2 minutes, Régis Sommier, peut-être on va conclure par le Liban, parce que c'est un petit peu là qu'on a commencé aussi. On est dans une situation au Liban qui est la situation insoluble parfaite, quelque part, dans le sens où évidemment le Hezbollah est armé et garde une certaine, je crois une dizaine de députés à la Chambre, enfin garde un certain poids politique. D'un autre côté, Israël veut désarmer le Hezbollah qui représente une menace pour sa sécurité. Israël demande au Hezbollah, enfin au Liban, enfin dit au Liban, bah en fait, tant que le Hezbollah sera armé, on continuera nos frappes et on continuera à avancer. Le Liban dit, bah en fait, le problème, c'est que tant que Israël est sur notre territoire, le Hezbollah a une raison d'exister. Concrètement, est-ce que ce sont les États-Unis et l'Iran qui vont dénouer la situation ?
Non, mais la question est totalement insoluble et la poursuite de l'intervention israélienne au Liban ne fait que renforcer le Hezbollah. Ne pas voir ça, c'est une réalité. Et quand c'est ignorer la réalité.
Et ils ont encore progressé justement dans leur avancée, les Israéliens. Ils sont encore remontés au nord du fleuve Litani.
Ils sont dans la zone, on va dire, critique, dans la zone du Hezbollah traditionnel, dans la zone dans laquelle la milice est née en 1983, et dans laquelle elle a combattu Israël jusqu'à son retrait en 2000. Donc, on ne voit pas pourquoi Israël réussirait une guerre qui qu'elle a systématiquement échoué à faire à plusieurs reprises. Et là, on voit que le Hezbollah s'est mis au diapason des nouvelles réalités de la guerre, utilisant à merveille les drones et les expériences de la guerre en Ukraine contre Israël. Et c'est un vrai problème. Et éradiquer le Hezbollah reste une illusion quand on sait que le mouvement chiite est largement implanté dans la population et qu'il a surtout été souvent on lui a sous-traité la défense du Liban. C'est ça le problème quand les politiques aujourd'hui viennent dire ah oui, le Hezbollah il faut arrêter. Oui, mais enfin pendant des décennies le Hezbollah s'est posé comme défenseur du Liban. Je me permettre juste une petite que Omerta, donc le média auquel j'appartiens, sort un documentaire sur le sud Liban que nous avons qui va sortir le 16 juin, donc disponible sur la plateforme, sur les humanitaires, le travail des humanitaires et en particulier des SOS chrétiens d'Orient au sud Liban. Voilà.
Et bien le 16, donc dans une semaine, on invite tous nos auditeurs effectivement à aller le visionner. Mais merci beaucoup Régis Sommier, et tout de suite je rends l'antenne à Richard de 16.
Merci.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Richard, bonjour chers auditeurs, bonjour Franck.
Bonjour Gilles. Alors évidemment, à la une, l'affaire Liana avec cette marche blanche qui s'est tenue dimanche.
Oui, alors 6000 personnes ont marché silencieusement dans le recueillement et dans l'opinion. Olivier Bacusa écrit que plus largement, ce drame est aussi une énième illustration d'un État qui ne tourne pas rond. D'administration pilotée à vue, au gré d'ordre et de contre-ordre d'une hiérarchie dont l'avenir dépend du sort de son ministre de tutelle, d'une technocratie aux règles absconses, en décalage complet avec les attentes des citoyens. Alors on frémit à l'évocation de dossiers papiers envoyés par la poste, du parquet de Toulouse à celui de Dauch, de systèmes informatiques obsolètes et incapables de communiquer entre eux. Et de son côté, Laurence Alési, la rédactrice en chef du Parisien, s'exclame « L'électrochoc aura-t-il lieu ?» Grégory Bobato, le maire de Florence, l'espère. La mort de Liana doit être la goutte d'eau qui renverse le vase, a-t-il déclaré. Le deuil ne peut pas tenir lieu de politique, avant d'ajouter « Notre société ne veut plus se résigner ». Pour preuve, plusieurs appels à manifester devant le ministère de la Justice et les tribunaux s'organisent ce lundi à 19h.
Alors, on peut évidemment exprimer les plus grands doutes sur la capacité du gouvernement à réagir intelligemment. Invoquer une insuffisance de moyens et d'effectifs est aussi un alibi paresseux ou hypocrite, écrit Guillaume Tabar.
Oui, alors l'éditorialiste du Figaro exprime ce que beaucoup pensent tout bas. Était-il vraiment impossible de convoquer ou de mettre en garde à vue des violeurs quand on se montre aussi intraitable avec les agriculteurs ou d'autres? Ce n'est pas non plus faute de moyens que des circulaires pénales ministérielles ne sont pas appliquées, toutes les possibilités techniques, notamment en matière de partage de l'information entre différentes juridictions, ne sont pas utilisées. Et puis ceci, en présentant ses excuses à la famille de Liana et aux Français au nom de la justice, Gérald Darmanin n'a pas tourné autour du pot, mais le garde des Sceaux a compris que l'opinion ne supporterait plus que l'État, à tous les niveaux, minore ou fuit ses responsabilités. Alors dans un autre style, et dans un autre article, Nicolas Daguin, toujours dans les colonnes du Figaro, relève que d'autres, comme France Victime, appellent à la tenue d'un Grenelle national sur les crimes commis contre les mineurs. Quelque 73% des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs seraient classées sans suite, souvent pour manque de preuves, a rappelé Jérôme Moreau, porte-parole de France Victime à l'AFP samedi. Voilà, sinon dans la presse, vous retrouverez encore des portraits de Bernadette Chirac, et je vous encourage aussi à lire le J'accuse de Boualem Sansal à la une du journal du dimanche. Il dit tout sur son livre La Légende, et dénonce l'ostracisation à son endroit du pouvoir algérien. Il raconte son transfert de Gallimard vers Grasset. Je n'y reviens pas. J'ai été pris en otage par un bandit qui a le titre de président, s'exclame-t-il amer.
C'est vache par rapport à Antoine Gallimard.
Oui, c'est ça. Ça, on en reparlera.
Voilà. Mais peut-être parlait-il du président algérien. En fait.
Non, mais là, c'était l'Algérien. Mais de toute façon, il règle ses comptes aussi avec Antoine Gallimard.
Alors, autre événement sportif cette fois, Roland Garros, l'Allemand Alexander Zverev, 29 ans, a enfin gagné contre l'Italien Flavio Cobolli, 19 ans.
Oui, d'ailleurs, on peut dire que ce sont deux Russes qui ont gagné, puisque vous savez que son père est russe, sa mère est russe, et je vais en parler. Et hier et samedi, c'est une Russe aussi qui a gagné. En fait, c'était un match exceptionnel. Je ne sais pas si vous l'avez regardé comme moi, plus de 4 heures d'affilée. C'est une leçon à la fois de courtoisie, d'élégance, et surtout une leçon de tactique et de stratégie. Zverev avec un service puissant, un revers incroyable face à un Cobolli qui a été flamboyant, courageux. Et l'on peut dire, comme l'écrit ce matin le Figaro, l'Allemand a tordu le cou à sa malédiction en grand chelem en remportant son premier titre majeur à Paris. Alors il faut remonter à Ener Henkel en 1937 pour voir un joueur de tennis triompher en finale, comme l'écrit le journaliste Jean-Julien Esvan.
Un joueur de tennis allemand.
Allemand, oui, absolument, pardon. Et doué, froid, écrit-il, l'Allemand qui, soit dit en passant, est surnommé Sacha, est toujours observé avec distance, scotché en permanence en fond de cour, métallique, mécanique. Il a depuis rangé les mouvements d'humeur qui ont parfois brouillé son image. En 1922, il avait écopé de 25 000 $, je dis bien 25 000 $ d'amende et de 2 mois de suspension avec sursis pour les coups de raquette sur la chaise de l'arbitre. Et puis il ajoute que cette même, oui, c'est une leçon de maîtrise le tennis. Et il ajoute que cette même année 2022, les fidèles de Roland Garros s'en souviennent lors d'une demi-finale disputée sous le toit du court Philippe Chatrier dans une enceinte transformée en étuve. Il tient tête à Rafael Nadal. Le match est un bras de fer sublime. La finale n'a pas encore choisi son vainqueur quand un cri glace le court, la cheville droite de l'Allemand reste bloquée dans le tapis de terre battue sur une glissade en bout de course en coup droit. Il quitte le stade sur des béquilles, mais 8 mois avant d'empocher une nouvelle victoire et puis plus longtemps avant de reprendre son élan vers les sommets. Alors hier, on a senti une vraie émotion quand Zverev a remercié Amélie Mauresmo en disant qu'elle est la meilleure organisatrice de tournois de tennis et qu'il avait passé les meilleurs et les pires moments de sa vie de joueur de tennis ici à Roland-Garros.
Alors, sait-on pourquoi l'hymne russe n'a pas été joué lors de la cérémonie officielle célébrant justement la victoire de l'autre russe, la joueuse sibérienne Mira Andreeva?
Ouais, 19 ans. Hein. Alors, on trouve la seule explication un peu plausible que j'ai trouvée, c'est sur le site de France Info. Alors que de plus en plus de fédérations... C'est rare que je cite une autre chaîne de radio. Hein. Alors que de plus en plus de fédérations sportives internationales réintègrent les athlètes biélorusses, voire russes, à l'instar de celle de la gymnastique artistique dans leurs compétitions, la Fédération internationale de tennis a maintenu ses positions de suspension de la Russie et de la Biélorussie dans son communiqué du 8 mai. Alors depuis l'invasion russe en Ukraine en février 2022, les joueurs russes et biélorusses sont autorisés à concourir sur le circuit sous statut neutre. C'est un statut neutre, donc sans drapeau, ni hymne ou initiale de nationalité accolée à leur nom. Aux Jeux Olympiques de Paris, vous en souvenez, en 2024, en revanche, les joueurs russes et biélorusses évoluant sous le statut d'athlète individuel neutre, l'AIN, avaient pu célébrer sous l'hymne olympique. Donc on laissait l'hymne olympique jouer, et à Paris, sur le court central, aucune musique donc a été diffusée samedi. Voilà, il y a un homme politique qui s'en est étonné, c'est monsieur François Asselineau, et qui a trouvé ça scandaleux. Voilà.
Alors, bon,
ils appliquent en fait une règle qui vient du comité. Voilà.
De tous les trucs scandaleux qui se passent en France en ce moment, le fait que l'hymne russe soit joué ou non à Roland-Garros, on s'en tape un peu le coquillard. Reparlez-nous, pour le pur plaisir de la rime, mais aussi d'une jouissance malfaisante, Schadenfreude, comme disent les Allemands, pour rendre hommage à Zverev, d'Antoine Gallimard et de Boualem Sansal.
Ah oui, alors en fait, c'est vrai que maintenant on le sait, si on lit son livre et si on lit les entretiens de Boualem Sansal, d'ailleurs il passe son temps à remercier l'éditeur qui s'est occupé de lui chez Gallimard, puisque Antoine Gallimard, vous savez, supervise un comité, et maintenant il travaille avec Christophe Bataille qui est resté chez Grasset. En fait, quand il s'est aperçu, enfin, il le dit, qu'il a été sous-payé chez Gallimard et qu'on lui proposait que 100 000 euros, et que le comité Benedetti lui avait l'avait mis en contact avec Arnaud Lagardère, qui représentait les intérêts de Grasset. À ce moment-là, quand il a su qu'il était viré de son appartement, il avait 10 jours pour quitter l'appartement que Gallimard lui prêtait, et qu'il avait que 100 000 euros, alors Grasset lui proposait 1 million d'euros et un appartement, pof. Et comme Gallimard, vous savez, Antoine n'avait pas soutenu le comité jusqu'au bout, puisqu'il voulait, il ne voulait pas de provocation avec l'Algérie, alors que Benedetti et Madame Lenoir étaient beaucoup plus offensifs, il a décidé de franchir le Rubicon et d'aller chez Grasset, puisqu'il était plus à l'aise, il n'avait plus d'appartement, il n'avait plus rien, et donc voilà, c'est un peu ça la fracture, tout en reconnaissant que jusqu'à présent Gallimard s'est occupé de ses livres aussi, ce n'est pas un renégat. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup Gilles, et bonjour Louis Rigaudière.
Bonjour à tous.
Quelle petite nouvelle pour cette zone libre.
Pour cette zone libre, je vais rendre hommage à une grande dame qui nous a quitté ce week-end. Évidemment, Gilles Brochard, je vais vous laisser dire son nom.
Bernadette Chirac.
Exactement.
Madame voilà. Chaudron de Courcelles.
La grand-mère de substitution de beaucoup de Français, évidemment, qui nous a quitté ce samedi. Alors évidemment, moi j'aimerais lui rendre hommage à ma manière avec un extrait que j'avais déjà diffusé dans une de mes chroniques et que j'ai trouvé très drôle et qui révèle surtout la simplicité du personnage. On n'en fait plus des comme elle aujourd'hui, je vous laisse savourer.
J'avais dit à mon mari, mais écoutez, qu'est-ce qu'on va faire pour le dîner? Est-ce que vous voulez aller au restaurant? Ou est-ce que vous voulez... Bon, j'ai mis quelques provisions dans le... Ah, ben ce soir, vous allez faire la cuisine. Moi, je préfère rester là. Très bien. Catastrophe. Je prends des œufs et je me dis, ça, une omelette, c'est facile. Je prends ce qu'il faut pour faire l'omelette. Je m'enferme dans la cuisine. Seulement, je bats mes œufs avec les coquilles.
Vous voyez? Faut le faire,
hein? C'est redoutable. Et alors, bon, j'avais mis du beurre chauffé dans la poêle, je renverse ça dans la poêle et je me dis, quand même, c'est une drôle d'allure. C'est bizarre, il y a des montagnes partout, pointues. Alors, évidemment, avec ma fourchette, je me suis dit, évidemment, je les ai battus les œufs avec les coquilles, ça donne le résultat. Alors, je suis allée le chercher, il m'a dit, bon, c'est pas très brillant, hein.
C'est magnifique, non mais vraiment c'est magnifique. Vous connaissez ça, cet extrait?
Oui, bien sûr, je le connaissais. Et alors, moi, il y a un petit reproche.
On sent la bonne éducation des gens qui ont vécu avec une cuisinière, quand même.
Ouais, bien sûr.
Ça me rappelle ma grand-mère. Alors, moi, j'ai un petit reproche à faire à Madame Chirac, on peut le dire. C'est quand Marie-France Garraud et Pierre Juillet ont fait signer le fameux manifeste, ce qu'on a appelé l'appel de Cochin, pour une Europe plutôt. National et non pas européiste au sens large, avant Maastricht, hein, n'oublions pas. Chirac l'avait signé, il s'en est mordu les doigts après, soi-disant, et Madame Chirac avait reproché à Marie-France Garraud et Pierre Juillet d'avoir fait signer ce manifeste.
D'accord,
voilà.
Oui.
Voilà, bon, ça, on peut dire que de ce côté-là, elle a peut-être soutenu ou conseillé son mari vers un glissement progressif, vers une Europe presque fédérale.
Oui. Bon, en tout cas, voilà, on salue sa mémoire, voilà, parce qu'elle nous manquera. Voilà, Richard.
Ok, voilà, Joker sur Madame Chirac.
Idem.
Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis jusqu'à maintenant. C'est le moment de nous abandonner sur YouTube et sur X, mais vous pouvez quand même rester avec nous pour un dernier petit geste. On en a parlé au cours de cette émission. Voilà, Radio Courtoisie reçoit des gens pertinents, même ceux qui disent du bien de Bernadette Chirac. Et ben pour ce faire, on a besoin de sous.
Oui, et nous, pas que des pièces jaunes, on peut y aller avec. Des pièces blanches. Merci Gilles, ça me fait plaisir. Vous pouvez aller sur soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne et ainsi aider Radio Courtoisie à poursuivre sa route et à continuer le combat et à défendre vos idées. soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr, un très grand merci d'avance.
Merci Franck, et tout de suite nous réécoutons le premier entretien de cette matinale, la dissolution de Patria Albigès, et on en parle avec Thomas, le fondateur.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce Debout les Français, chers auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir Thomas, militant et fondateur du groupe identitaire Patria Albigès, qui a eu la terrible nouvelle, si j'ose dire, que son groupe était donc dissous. Alors pour commencer, cher Thomas, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quel est votre groupe Patria Albigès et qu'est-ce que vous défendez au quotidien ?
Bonjour Maëlys, merci de m'avoir invité. Alors Patria Albigès, c'est un groupe qui est né en 2021 à Albi et dans le Tarn. Nous sommes un mouvement de jeunesse activiste se revendiquant identitaire. Nous défendons la triple identité, cette fierté donc d'appartenir à une ville, appartenir à une région, une nation et une civilisation. Moi, par exemple, je suis très fier d'être albigeois et je comprends très bien que les Bretons sont fiers de ce qu'ils sont, que les Corses sont fiers de ce qu'ils sont. Et ensuite, voilà, il y a le fait d'être français, d'appartenir à une nation, ce qui devrait être normal dans tous les pays du monde. Et on va un peu plus loin, il y a le fait d'appartenir à une civilisation européenne qui est vieille de plus de 2000 ans. Donc voilà, nous défendons ce concept de triple identité puisqu'il s'imbrique dans nos us et coutumes, notre histoire. Nous sommes très fiers de dire souvent à nos militants que nous sommes les fils d'Ulysse, de Jeanne d'Arc, de Léonidas, de Charles Martel. Donc voilà, nous défendons ce patrimoine historique. C'est être militant à Patria Albigès, c'est aussi défendre nos identités locales, notre gastronomie, et c'est être conscient des enjeux actuels, des enjeux de notre époque par rapport à la question migratoire, le grand remplacement, et qui nous provoque donc des problèmes d'insécurité, des problèmes d'identité, de troubles à l'ordre public, comme on a pu voir le week-end dernier après la victoire du PSG. Mmh. Donc voilà, c'est comprendre notre époque. Et de ce fait, comprendre notre époque, c'est aussi avoir une vision du monde, une vision de notre futur. Et c'est être capable de proposer une alternative politique. Et nous croyons fermement en une politique de rémigration sur du long terme pour permettre aux peuples européens de rester ce qu'ils sont.
Alors, on connaît un petit peu la mouvance identitaire, on vous voit extrêmement actif, notamment sur les réseaux sociaux. Quelles sont les actions que vous faites le plus souvent, justement, pour exprimer votre militantisme, pour le faire vivre, si j'ose dire?
Alors, les actions qu'on effectue souvent, c'est des actions d'agitation propagande qui ont pour but de lancer l'alerte, car nous sommes des lanceurs d'alerte. Notre but, c'est de sensibiliser les Français aux problèmes qui nous menacent et de les inciter à se réveiller pour qu'ils s'engagent. Donc, c'est des actions d'agite propre, banderoles devant des lieux symboliques. Ça peut être des actions originales, si je puis dire. Par exemple, les jeunes de PA ont fait une action pour les 10 ans du Bataclan en mettant en scène 130 croix pour mettre en avant les 130 morts qu'il y avait eu au Bataclan. C'est des actions comme ça, coup de poing, qui permettent d'éveiller l'opinion publique.
D'accord, alors effectivement, vous faites donc un grand nombre d'agites propres, comme on dit dans votre narratif, ce sont des actions coup de poing, comme vous l'avez dit, et manifestement, eh bien, ces actions, elles ne plaisent pas toujours au pouvoir, puisque notre cher Maud Brejean a acté votre dissolution. Alors vous, déjà, dans un premier temps, comment est-ce que vous avez réagi, et surtout, sur quel motif cette dissolution a-t-elle été actée?
Alors, on ne s'y attendait pas, honnêtement. Pourquoi on s'y attendait pas? Car Albi, il faut vraiment se recontextualiser. On est une ville de 50 000 habitants, donc on n'est pas 100 militants, quoi. On est un petit noyau de 10 militants. Petite ville, on se disait pas, tiens, le gouvernement Macron va s'occuper de nous. On se disait, oui, c'est plutôt l'apanage des grandes villes, ce genre de choses. Mais bon, finalement, on est en train d'y passer. Et on a été étonnés. Et ce qui nous est reproché, c'est trois choses. Trois choses. Il y a le levier idéologique. Mmh. Il y a le fait de mettre en action tout ça avec l'activisme. Et il y a un côté violence. Le côté idéologique, on nous reproche sur le PV de dissolution le fait de mettre des stories sur Instagram, des publications qui font le lien entre immigration et insécurité. On nous reproche, par exemple, notre présence à Vienne pour la manif rémigration avec les identitaires autrichiens. Mm-hmm. Ça m'avait beaucoup marqué.
Effectivement, parce que j'étais aussi, moi, j'ai pas été embêté, donc pour Ligne Droite, pour faire un reportage, évidemment.
et enfin, il y a une partie violence. Pourquoi? Car il y a 3 ans, notre ancien porte-parole a été impliqué dans une bagarre avec des antifas. ils ont été portés plainte et ça s'est traduit en justice avec un procès. Ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Et donc voilà, il y a un peu ce mélange de choses qui font qu'on a été qu'on est en train d'être dissous, voilà, clairement.
D'accord, oui, effectivement, on peut s'interroger, puisqu'il est vrai que dans la France de 2026, aujourd'hui, quand on va porter plainte, en général, c'est très rarement suivi des faits, hein, même des menaces de mort. En général, elle reste au commissariat, il n'y a jamais des faits à la suite. Donc on imagine bien la dimension idéologique derrière cette dissolution. Alors vous, on imagine que ces motifs, eh bien, ils sont un petit peu dérisoires ou disons injustifiés pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette dissolution une volonté de l'État carrément assumée de museler votre militantisme et donc vos idées parce que finalement vous ne plaisez pas au pouvoir?
Alors déjà oui, on ne comprend pas ce genre de mesures. Je ne sais plus, je crois qu'on a une cinquantaine de dissolutions, peut-être un peu moins depuis Darmanin. Oui, il y a clairement une volonté de l'État de museler les forces patriotes en France. Je pense que c'est dû aussi au fait... Enfin, c'était déjà le cas depuis 2017, il me semble, mais je pense que là, ça s'accélère dû au fait qu'on est à un an de l'élection présidentielle. Ouais. Et je ne sais pas si vous vous rappelez... Mais à l'époque, Génération Identitaire avait été dissous, si je ne dis pas de bêtises, un an et demi avant l'élection.
Oui, c'était en 2021.
Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a clairement une envie de museler les forces patriotes, d'éteindre nos voix. Et aussi, il y a un côté dissuasion envers la jeunesse. Je pense qu'il y a le fait de montrer que l'État est répressif pour que justement les jeunes se disent « Ah ben non, je ne vais pas m'engager, il y a trop de risques judiciaires. » Je suis avec mes parents, j'ai pas envie de voir la police arriver à 6h du matin. C'est trop de responsabilités pour moi. Et je pense que les jeunes je pense que l'État veut inciter aussi la jeunesse à faire marche arrière.
Oui, effectivement, on l'a vu, le niveau de répression, il est quand même très, très conséquent aujourd'hui. On l'a vu notamment avec la conférence organisée par les natifs de Jared Taylor qui, pas plus tard qu'il y a deux jours, a été interrompue par les forces de police qui ont débarqué comme ça en pleine conférence. Donc, c'est une simple conférence. Donc, pour vous dire à quel point les patriotes sont réprimés, hein, je pense que c'est le cas. Vous, en tant que militant, comment vous la vivez et surtout comment vous percevez cette motivation, si j'ose dire, de la police à venir vous interpeller alors que vous faites une simple conférence ou alors que vous êtes en pleine action. Enfin, comment vous voyez tous ces moyens que l'État met en place contre vous?
On trouve ça bien évidemment regrettable, mais on n'est pas étonné en fait que l'État nous mette des bâtons dans les roues depuis tant d'années. Le but est de nous freiner, de nous rendre la vie difficile. Je suis pas étonné, ça ne m'étonne pas, et je pense qu'on va au devant de futures années qui vont être de plus en plus compliquées, où l'État va vouloir quand même garder, si je puis dire, les manettes et empêcher des forces alternatives de prôner entre guillemets notre vision du monde, et notamment cette question de rémigration. Et voilà, enfin voilà.
Alors, effectivement, donc, on peut dire que le pouvoir est contre vous. Hein. Manifestement, ce n'est plus un scoop. Par ailleurs, on a quand même dans la classe politique française des institutionnels qui sont censés représenter justement cette parole du camp national et donc être au soutien, manifestement, en tout cas, c'est ce qu'ils devraient faire, d'être au soutien donc de ces militants patriotes. Est-ce que vous, en tant que militant, vous vous sentez soutenu par ces élus de droite, donc je pense notamment à ceux du Rassemblement national, au même titre que LFI, par exemple, défend sans détour les antifas, y compris la Jeune Garde?
Vrai sujet, mais il faut en parler. Moi, je trouve regrettable justement ce manque de courage politique des institutionnels, du RN, etc. On peut d'ailleurs remarquer, je sais pas si tu avais suivi, mais Éric Ciotti à Nice, par exemple, a demandé la dissolution. Il faut vraiment se rendre compte que ce soit l'extrême gauche, Macron ou le Rassemblement national, on se rend compte que pour plaire, ils seront prêts à dissoudre à tour de bras et à faire en fait le même programme politique que pouvait faire Darmanin par le passé. Donc même les gens avec qui on peut penser être amis avec des guillemets peuvent se retourner contre nous pour je ne sais quelle raison, et surtout je pense du manque de courage politique. Et mais on l'a vu même avec Jean-Philippe Tanguy, il me semble, fut un temps, qui disait que il n'hésiterait pas à appeler à la dissolution de groupes d'extrême droite. Donc je suis pas étonné, et je suis pas étonné, ce manque de courage politique aussi m'a forcé à l'époque à m'engager et à fonder un mouvement identitaire alternatif, si je puis dire.
Oui, effectivement. Puis il est vrai que les soutiens sont quand même assez faibles, hein, malheureusement, à l'inverse de la gauche, hein, on peut le reconnaître ça. Et les filles, pour le coup, défendent inlassablement les antifas. Ils le disent, ils sont de leur côté, ils sont dans leur camp. Alors, ce qui est certain, c'est que on a tout de même cet État qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais on imagine aussi que c'est aussi une source de motivation pour vous continuer à faire davantage, parce qu'on imagine que c'est décourageant à la fois. Enfin, vous, comment vous vous positionnez quant à toutes ces offensives de la part de l'État?
Alors vraiment, moi, ce que j'ai à dire à l'État, c'est que oui, clairement, il faut être honnête, la dissolution, c'est un outil politique qui complique la vie de l'engagement. Mais nous, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, ça complique les choses, mais ça n'entache en rien ma motivation et mon objectif final en tant qu'activiste. Oui, l'outil Patrie-Albigès va disparaître, a disparu. On attend encore la notification officielle qui rendra, on va dire, qui rendra la dissolution actée, si je puis dire. Mais en fait, il faut pas se sentir découragé. Il faut vraiment, moi, je me sens clairement renforcé. Je me dis que le travail qu'on a accompli pendant tant d'années a été, je sais pas si c'est le bon mot, mais a été reconnu à sa juste valeur. À sa juste valeur. Voilà, il y a eu de très bonnes choses d'effectuer. On a fait des erreurs. Maintenant, on va étudier ces choses-là. Et voilà, on incite vraiment les jeunes à s'engager autour d'eux, dans leur ville, etc., à passer outre un peu cette répression et à faire preuve d'un vrai courage, car moi, j'ai encore espoir en l'avenir. J'ai beaucoup d'espoir, je ne suis pas du tout quelqu'un de défaitiste. Et à Patrie-Albigès, on a toujours amené une image positive, une image optimiste du présent et du futur. Donc, on incite vraiment les gens à se battre et avec le sourire.
Bien, écoutez, merci beaucoup Thomas. Je rappelle que vous êtes fondateur et militant au sein de Patrie-Albigès. Comme on dit, on peut supprimer un mouvement, mais on ne supprime pas une jeunesse qui se lève. J'espère que l'État entendra ce petit message. J'imagine que c'est celui que vous voulez faire passer aussi. Donc voilà, merci beaucoup et on a hâte de suivre votre future aventure militante, bien que sans Patrie-Albigès. Merci beaucoup.
Bon, merci à Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Merci à vous tous, chers auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'à maintenant. Mais en même temps, c'était passionnant, vous avez eu bien raison. Et tant pis pour ceux qui sont partis. Et tant mieux pour ceux qui vont nous rejoindre. Juste avant que vous nous rejoigniez, petit geste en faveur de Radio Courtoisie.
Aidez-nous à garder notre indépendance. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, puisqu'elle refuse toute subvention et toute publicité. Alors allez sur soutenir.rc.fr pour apporter votre participation. soutenir.rc.fr. Évidemment, nous vous remercions énormément par avance.
Eh bien, merci Franck. Et avec tout ce bel argent, on va faire d'excellentes émissions aujourd'hui.
Alors, dans un instant, Parole et Pensée de Jean-René L'Admiral. En quoi la Pentecôte parle-t-elle à tous les hommes, avec l'abbé Guillaume de Tannouarn? À midi et en direct, le Libre Journal de Michel de Rostolan. Or, toute tutelle, l'école doit rester le lieu de la transmission du savoir, avec Anne Coffigné, Jean-René L'Admiral et Jean Larmande. À 17h tout à l'heure, le Culture et Politique de Richard Haddad et Pierre-Henri, Serge Basset, à l'occasion de la parution de son ouvrage biographique Margaret Thatcher, un itinéraire hors du commun. À 17h30, retrouvons Pierre-Alexandre Bouclet pour Restons Courtois, avec le rendez-vous avec François-Xavier Frelan, France-Afrique, les vraies causes d'une rupture, et puis le rendez-vous réinformation sur la mort de Liana et la faillite judiciaire. 19h30, le Libre Journal du lundi soir, dirigé aujourd'hui par Romain Petit Jean, politique culturelle, reprendre la main avec Marguerite Frison-Roche et Hubert Calmette. Et puis à 21h30, Virginie pour la soirée musicale aujourd'hui, les contes d'autrefois.
Eh bien, merci beaucoup et je dis à tout le monde à demain avec Alexandre de Galzin, dont vous avez été privé odieusement la semaine dernière et qui sera à nouveau là demain et après-demain et encore jeudi.
À demain, 7h.